Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, ton amour est tellement grand qu'il est inaccessible à l'être humain que de pouvoir le comprendre. Nous avons notre façon d'exprimer notre amour, mais toi tu as la tienne, et la tienne, elle nous surprend vraiment. Nous montrons ainsi comment, de quel amour tu nous aimes. Te remercions pour nous avoir choisi dès avant la fondation du monde. Te remercions d'avoir établi un plan pour notre salut. Alors que nous étions en mauvaise posture, nous étions dans une misère profonde, ta miséricorde a surgi et a travaillé en notre faveur de telle manière que nous puissions désormais marcher en liberté de vie. Dans la félicité, dans le bonheur, dans la joie que tu donnes et la paix. Donne-nous de pouvoir, ô Dieu, marcher dans les sentiers que tu as tracés pour nous. Et chaque obstacle que nous puissions l'affronter avec de manière victorieuse. Pardonne-nous nos péchés. Inspire-nous ta parole, Seigneur. Aide-nous également à écouter. Nous nous abandonnons entre tes mains. Vraiment, nous sommes désolés pour nos péchés. Nous regrettons d'avoir fait ce que nous avons fait. Nous regrettons de n'avoir pas fait ce que nous aurions dû faire. Que tu sois apaisé envers nous. Nous nous en remettons à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans mon prier. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Ce soir, nous lirons dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Quatre premiers versets. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour nous asseoir. Nous allons parler ce soir de l'épreuve de la foi. La Bible est remplie de promesses. Et Paul dit aux Galates que les promesses ne sont pas faites à tout le monde. Galates. Chapitre 3. Or, les promesses qui sont là ont été faites à Abraham et à sa descendance, et à personne d'autre. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, Mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Comme les promesses sont faites à sa postérité, et la postérité, afin qu'elle bénéficie des promesses, Dieu met la postérité d'Abraham en Christ. Ainsi, Paul dit aux Corinthiens, en Christ, toutes les promesses sont amen, et oui. Parce que c'est pour eux. Et pour être reconnu comme fils d'Abraham, verset 6, toujours chapitre 3, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, bien sûr, les filles d'Abraham également, ont droit à ces promesses. Dans Luc 13, nous lisons ceci. Verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Pardon. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Pendant 18 ans, elle était infirme. PMR, si vous voulez, personne à mobilité réduite. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Normalement, lorsque une fille d'Abraham ou un fils d'Abraham est soumis à ce genre de situation, en principe, Dieu doit lui accorder ce dont il lui revient. C'est-à-dire ce que Christ a acquis pour lui ou pour elle à la croix, à Golgotha. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire, pour le mener boire. » Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Amen. Le fait qu'elle soit fille d'Abraham. Le Seigneur a reconnu qu'elle était une fille d'Abraham. Qu'est-ce qui fait que Dieu l'ait reconnue, que le Seigneur l'ait reconnue comme étant une fille d'Abraham? Vous savez, elle est malade depuis 18 ans. Pendant 18 ans, je ne sais pas, certainement elle a dû prier, ça je n'en sais rien. Mais pendant 18 ans, elle était toujours à son poste de devoir. Et ce jour-là, elle y était comme les autres jours. Et parce qu'elle y était, ben, c'est que quelque part, elle y croyait. Elle ne s'est pas découragée et ça ne devait pas être très facile pour elle. Elle devait toujours être dans l'inconfort. Mais cet inconfort ne lui faisait pas fuir la communion avec les frères et les sœurs. Et Jésus dit, ça c'est le cas d'une fille d'Abraham. Oui, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, justement pour l'empêcher d'être en communion avec ses bien-aimés, pour l'empêcher de prier, de louer Dieu, pour l'empêcher d'adorer, pour l'empêcher, n'est-ce pas, pour la mettre mal à l'aise, n'est-ce pas, dans l'assemblée des saints, mais elle y venait quand même. Je ne sais pas comment elle faisait, mais elle y venait. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Elle venait, je ne sais pas si elle venait à pied. Elle se traînait. Et Dieu, pendant ces 18 années, Dieu a vu ça. C'est que les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham, ils sont obstinés. Ils n'abandonnent pas facilement. Ils n'abandonnent jamais, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs de leur appel. Ils sont sûrs de leur vocation. Ils sont certains de ça. Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il y a des choses glorieuses pour les enfants d'Abraham. Amen. Et l'épreuve de la foi, N'est-ce pas, c'est le titre. L'épreuve de la foi, je le dis souvent, je le dis toujours, équivaut aujourd'hui à un test d'ADN. C'est-à-dire, lorsque vous réclamez que vous êtes fils ou fille d'Abraham, s'il y en a qui doutent, vous pouvez toujours aller passer le test d'ADN. Oui, le test d'ADN va montrer si effectivement vous êtes fille d'Abraham ou fils d'Abraham. Celle-là, il n'y a aucune erreur possible pendant 18 ans. Vous imaginez, beaucoup se seraient découragés, mais pendant 18 ans, elle y était toujours, sachant que les promesses étaient pour elle. Et c'était même bien avant la croix, bien avant qu'elle ait la révélation d'Ésaïe 53. Mais il y avait en elle cette promesse, cette foi qui faisait que Dieu était plus que capable de la guérir. Et c'est le cas en ce qui concerne les fils et les filles d'Abraham. On ne reste pas sous un joug. Un fils d'Abraham ne se laisse pas lier par Satan. Comme cela pendant toute sa vie, il doit demander, il doit réclamer sa délivrance, sa libération. Et Jésus est venu ce jour-là. On dirait qu'il est venu juste pour elle. Et il a guéri. Et cette femme est rentrée libre chez elle. Hein, le lien qui la retenait, n'est-ce pas, dans cette position, ce lien avait été rompu. Notez que c'était fait avant la croix. N'est-ce pas? C'est Dieu qui éprouve. Quand on parle de l'épreuve de la foi, c'est Dieu qui éprouve votre foi. Et l'épreuve de la foi n'est pas quelque chose de facile. Dieu a deux outils qu'il utilise. Enfin, il en a peut-être plus, mais moi, je n'en ai vu que deux. Ce n'est pas parce que j'en ai vu deux qu'il n'y en a que deux. Mais les deux outils que je vois que Dieu utilise le plus, ce sont les afflictions et le temps. Les afflictions, vous n'allez pas regarder aux afflictions. Vous ne regardez, comme dit Frère Branham, vous ne regardez pas aux symptômes. Les fils d'Abraham ne regardent pas aux symptômes. C'est Dieu qui éprouve. Et il a éprouvé les enfants d'Israël en les sortant de l'Égypte, n'est-ce pas? Il les a éprouvés par la soif et la faim. Et il leur dit, dans Deutéronome 8, il dit, considérez le chemin que vous avez parcouru. Parce que la promesse de les délivrer, de les mener en Canaan, elle avait été faite à Abraham. Et c'était pour les fils d'Abraham. Amen. La promesse était pour les fils d'Abraham, c'était pas pour n'importe qui. Et les fils d'Abraham, quand bien même ce désert pouvait être grand et affreux, amen, quand bien même ce désert pouvait être infesté de serpents et de scorpions, seuls les fils d'Abraham pouvaient quitter l'Égypte est arrivée en Canaan avec la foi. Parce que ce qui caractérise, ce qui fait de vous un fils d'Abraham, c'est votre foi. Ce qui fait de vous une fille d'Abraham, c'est votre foi. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, il nous est dit dans Galates. Dans Deutéronome 8, il nous est dit que le désert, verset 14, « Prends garde que ton cœur ne s'enfle. » Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. S'il est grand, ça veut dire qu'il est long à traverser. Ça veut dire que vous allez passer un très long mauvais moment, un très long moment difficile. Maintenant, dans ce très long moment difficile, vous devez être convaincu que Dieu vous conduit à bon port, malgré la faim, malgré la soif, n'est-ce pas? On va y arriver, mais lisons d'abord ceci. Ceci, dans ce grand et affreux désert, ce n'était pas un désert qu'on traversait en une heure ou en 20 minutes, non. C'était un désert, ça leur a pris 40 années. Amen. Normalement, c'est un désert de... Moïse dit, c'est un désert de 11 jours de marche. 11 journées de marche. En 11 jours, ils devaient arriver à bon port. Mais s'ils ne sont pas arrivés à bon port, pourquoi? Parce que ceux qui étaient partis de l'Égypte en premier lieu n'étaient pas de véritables fils d'Abraham. Il n'y en a eu que deux de ceux-là, Josué et Caleb. Tandis que les autres, ben, ils ont été disqualifiés. Par contre, ceux qui sont nés pendant les pérégrinations dans le désert, ceux-là, en tant que fils d'Abraham, ils sont arrivés. Ils n'ont pas été effrayés par les géants qui étaient là devant eux. Ils sont entrés, ils ont pris Jéricho, ils ont pris Haï, ils ont battu 31 rois. Vous voyez? Ça, c'est la position des fils d'Abraham. Donc, il t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, soif, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver. Il t'amène à ça. Amen. Dieu ne tente pas, Dieu éprouve pour te faire ensuite du bien. Après t'avoir éprouvé, après vous avoir éprouvé, le but de Dieu est de vous faire du bien. Amen. Donc, si vous prétendez ce soir être fils ou fille d'Abraham, votre ADN spirituel doit le manifester. Ça doit manifester que vous êtes fils ou fille d'Abraham. Vous avez demandé quelque chose, vous ne l'avez pas reçu, vous ne l'avez pas encore reçu, Dieu vous éprouve, eh bien, vous continuez à croire en lui. Vous continuez à lui faire confiance. Frère Abraham disait, même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Ça, c'est la position d'un fils d'Abraham, quelqu'un qui aime Jésus-Christ. Vous savez, Abraham, quand il a vu le jour du Seigneur, il s'est réjoui. Il s'est réjoui de ça. Et une foi qui est éprouvée, quand Dieu éprouve la foi de quelqu'un, il faut, d'abord avant cela, il ne faut pas confondre une épreuve avec une sanction, une punition. Ce n'est pas la même chose. Dieu ne punit pas nécessairement. Non, quand Dieu vous éprouve, ce n'est pas nécessairement une punition. Quand vous avez mal agi, Dieu vous punira. Ça va? Bon, il y a une punition pour une quelconque mauvaise action. Mais il y a une épreuve aussi pour voir pourquoi, il le dit toujours dans Deutéronome 8, il dit, le but de l'épreuve, c'est ceci. Verset 3, il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc Dieu veut nous apprendre. Si on regarde au verset 2, il dit, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Ça, c'est le but de l'épreuve. Une punition, ça, c'est un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il ne faut pas confondre non plus avec une réparation. Une réparation n'est pas nécessairement une punition. C'est pour établir la paix entre deux personnes qui ont un problème, entre deux parties qui ont un problème. Et s'il y a une partie qui est lésée, une partie qui n'est pas lésée, il suffit de réparer la chose pour qu'une communion puisse être rétablie. Ça, nous avons vu ça dimanche passé. Un exemple, si on prend l'exemple de David, lorsque le prophète vient lui dire cette parabole avec ce voyageur qui est passé, pour lequel on a tué une brebis. David prononce d'abord la sanction. Il dit, cet homme mérite la mort. Ça, c'est la sanction. Mais juste après, il dit, et il rendra, c'est 2 Samuel 12, je ne sais plus très bien comment il dit ça. 2 Samuel 12. Oui, verset 6, il dit, il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ça, c'est une réparation. Vous voyez? Rendre quatre brebis, ce n'est nullement une punition. C'est Dieu qui a fixé comment apaiser le propriétaire de la brebis tuée, n'est-ce pas? Qu'il n'en avait qu'une, comment l'apaiser? Ben, non, Dieu, Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Vous voyez? Non, il ne faut pas confondre ces trois concepts-là. Ça peut paraître parfois s'entremêler, mais ça ne s'entremêle pas. Lorsqu'il y a une question à régler entre deux parties, eh bien, si une partie est fâchée, pour enlever sa colère, n'est-ce pas, il faut expier. C'est pour cela qu'on a parlé de l'expiation. Il faut expier, c'est-à-dire il faut réparer. Quand vous réparez, eh bien, faire est oublié, c'est réparé, hein, c'est fini, quoi. Et la foi éprouvée, lorsque la foi est éprouvée, elle est productive, c'est-à-dire elle n'est pas stérile. Elle produit. Amen. Nous venons de lire dans Jacques. Jacques chapitre 1er. Donc quand Dieu éprouve votre foi, votre foi doit produire. C'est une foi qui a été éprouvée. Dieu l'a acceptée. C'est une foi merveilleuse. C'est là où vous pouvez chanter, tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi, n'est-ce pas? Jacques dit que au verset 3, l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça va? Vous avez beaucoup chanté, hein, dans le passé et parfois même maintenant, que vous voudriez bien être comme Jésus, Jésus étant l'homme parfait. Et dans l'homme parfait, il y a ses vertus, n'est-ce pas? Comme il nous a été dit, nous a été enseigné, n'est-ce pas? À cause de cela, de 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5, verset 3, pardon, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. OK? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce dont nous avons besoin pour vivre. Ce dont nous avons besoin pour être pieux. N'est-ce pas? Des hommes et des femmes qui prient. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa gloire et sa vertu nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça va? Les promesses, les grandes, précieuses promesses dont nous avons besoin, afin que par elles, que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Que vous deveniez comme Jésus. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Et effectivement, dans une épreuve, vous êtes appelé quand même à faire des efforts. Parce qu'une épreuve, que si ce sont des épreuves d'examen, vous allez sacrifier beaucoup d'heures de loisirs. Vous allez sacrifier des heures de sommeil. Vous allez sacrifier beaucoup de choses, hein, pendant que les autres peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais non, vous avez vos examens à préparer. Ça va? Alors, faites pour joindre à votre foi, évidemment, celui qui sait qu'il ne va pas réussir, il n'étudie pas. Mais quand vous avez foi que vous allez réussir, vous allez étudier. Ça va? Quelqu'un qui a peur, je connais, quelqu'un qui a peur de rater ou passer, par exemple, pour n'importe quel examen, un examen théorique de conduite, et qui n'ose pas y aller, c'est qu'il n'est pas sûr de réussir. C'est quelqu'un qui doute. Mais quelqu'un qui est sûr de réussir, il prépare ça. Dites amen à ça. Il prépare ça. Il sait qu'il va réussir. Que ce soit dans les études, c'est pareil. Si vous doutez, est-ce que je réussirai, est-ce que je ne réussirai pas, ça ne sert à rien d'essayer. Soyez sûr que vous allez réussir. Maintenant, ça peut arriver que vous ratiez, mais au moins, si vous avez étudié de manière à être certain que vous allez réussir, en principe, vous devez réussir. Si vous commencez à avoir peur de certains cours, mais ce cours-là, je ne sais pas comment je vais faire pour le passer, oubliez. OK? Donc, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour vous joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. Vous voyez ? À la patience, la piété. La patience vient avant la piété. Vous voyez ? Et la patience, ça fait partie, n'est-ce pas, de la stature parfaite, de la stature de l'homme parfait. Et l'homme parfait est patient. L'homme imparfait ne l'est pas. C'est donc, quand on parle de la patience, c'est la patience à l'égard des circonstances. Des circonstances qui se présentent, c'est-à-dire les afflictions que vous subissez, les persécutions, les combats par lesquels vous devez passer. Ce sont des situations qui peuvent faire partie de votre combat de la foi. Parce que, comme dit Paul, il y en a qui n'ont pas pu supporter ce combat. Ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ceux qui font naufrage par rapport à la foi n'ont rien à voir avec Abraham. Imaginez Abraham, on va arriver. Donc, les afflictions, qui ça Job est passé par de grandes afflictions, n'est-ce pas? Dans Jacques, il nous est parlé de Job, de ces afflictions-là, Jacques 5. Verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le Seigneur vient bientôt, nous le savons. Tous les signes sont là, se manifestent pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous apprêter. Et c'est vrai que ça donne l'air de traîner, de prendre du temps, mais le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre, nous exhorte à être patient. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Alors, quand il vous est dit, soyez patients, acceptez l'épreuve de votre foi. Parce que Dieu ne va pas venir avec un paquet de patience. Vous coller cela dans le cœur, non. Vous allez passer par une épreuve, une épreuve sérieuse. Et battez-vous pour sortir vainqueur de cette épreuve. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenons pour modèle. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, sans se plaindre. Dites amen à ça. Sans pleurnicher. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, dont nous avons parlé mercredi. Donc, les circonstances, n'est-ce pas? Les circonstances par lesquelles nous devons passer, les circonstances difficiles par lesquelles nous passons, sont là, souvent, non pas pour nous pourrir la vie, mais pour éprouver notre foi. Un autre outil que Dieu utilise pour éprouver notre foi, c'est le temps. Le temps par lequel nous passons. Imaginez Abraham, Dieu l'appelle à 75 ans. 75 ans. Et Dieu lui promet un fils. Il a 75 ans. Plus les années passent, moins Abraham est fécond. Non seulement lui, mais Sarah également. Plus les années passent, plus le corps s'use. Ouais. Et plus les années passent, cela a tendance à pousser quelqu'un à douter de la promesse de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, c'est bien ça? J'imagine aussi, ça c'est dans le cadre des afflictions, les enfants d'Israël, lorsque Dieu leur dit, je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel, après avoir vu tout ce que Dieu a fait aux Égyptiens, les fléaux qu'il a fait tomber sur les Égyptiens, comment il a appesanti sa main sur les Égyptiens, comment ils sont sortis à main levée, c'est-à-dire sans se cacher, comment Dieu a ouvert la mer Rouge, mais pour eux, Canaan, c'était au bout de 200 mètres peut-être. Quand ils sont partis, ils ont cru, ils ont pensé, j'essaie de me mettre à leur place, ils ont certainement pensé, dans quelques jours, nous y sommes, dans ce pays où coule le lait et le miel. Ils n'ont même pas pensé à quelques jours. Ils ont pris les présents. Ils ont pris l'or, les présents que les Égyptiens leur ont donnés, mais on ne lit nulle part où ils ont pris une provision d'eau. Hein? Or, le désert, quand vous apprêtez à traverser le désert, vous voyez quand même de l'eau, s'il vous plaît. Oui, mais ils n'ont pas prévu ça. Ils ont plutôt pris l'argent, ils ont pris l'or, toutes les richesses, ils ont dépouillé les Égyptiens et les voilà partis. Mais vous savez, quand la soif arrive, vous n'allez pas boire l'or. Hein. Vous pouvez avoir les poches pleines d'or, mais vous avez soif. Il faut de l'eau. Dites amen à ça. N'allez pas, quand la faim vous tenaille, vous avez de l'argent, mais vous avez faim. Vous n'allez pas manger votre argent. Hein. Il vous faut quelque chose à manger. Alors, il se passe comme ça un jour, deux, trois, quatre. On arrive au 11e jour, ils arrivent à la Kadesh Barnea, ils font des histoires. Non seulement cela, après avoir souffert de soif et de faim, qu'est-ce qui se passe? Il y a, comment on appelle, les fils d'Anak de l'autre côté. Donc, un mur infranchissable. des personnes devant lesquelles ils paraissent comme des sauterelles. Ouais. Alors, ce qui fait que ça donne un coup sérieux à votre foi. Mais maintenant, c'est Dieu qui éprouve. C'est à vous de voir si mon Dieu est réellement le Dieu d'Abraham. Ben, ce fils d'Anak, c'est rien du tout. Si Dieu a dit que la terre est pour moi, le pays est pour moi, il est pour moi. Il ne faut pas regarder à la difficulté de la promesse. Il faut regarder à la fidélité de Dieu. Il faut regarder à la puissance divine. Comme on dit toujours, ayez foi en Dieu, on a déjà prêché là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande foi. Vous avez besoin seulement de croire que la foi que vous avez, c'est la foi en un grand Dieu. C'est Dieu qui est grand, pas votre foi. Dites amen à ça. Votre foi peut être aussi petite qu'un grain de sénévé. Mais pour autant que c'est la foi en Dieu, ben, la promesse est pour vous. Tant que c'est une promesse divine, un fils d'Abraham ne lâche pas. Jacob n'a pas lâché. Quand l'ange lui dit, ben maintenant laisse-moi partir, Jacob dit, je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que j'ai la bénédiction. Il y a une bénédiction que Dieu a donnée, en fait. Vous soyez, repentez-vous, ça c'est votre part, et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est votre part, et vous aurez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est une réalité. C'est pour vous. Ne lâchez pas cette promesse. Ne laissez pas Dieu partir sans ça. La promesse, elle est pour vous. Faites pas confiance aux hommes, faites confiance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient. Non seulement il va nous conduire dans toute la parole, le Saint-Esprit va nous consoler, le Saint-Esprit va nous corriger, le Saint-Esprit va faire tout ce dont nous avons besoin d'avoir pour pouvoir continuer dans ce sentier. Et c'est une promesse que Dieu nous a faite. Elle est pour vous. Pas seulement pour vous, elle est pour vos enfants également. Pas seulement pour eux, pour ceux qui sont aussi loin, qui sont au loin. Combien en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Il n'y a pas de chiffre que nous connaissions. Dieu peut connaître les chiffres, oui, parce qu'il est Dieu. Mais c'est un grand nombre de personnes. Donc, nous parlions d'Abraham. Abraham, on parlait du temps comme outil d'épreuve. On a parlé des afflictions. On parle du temps dans Romains chapitre 4. Verset 17. On va recommencer au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. On est héritier par la foi. On est héritier des promesses par la foi. Non pas par quelques mérites que ce soit, pour que ce soit par grâce. Amen. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Quand on dit à toute la postérité, si vous avez la foi, vous êtes compris dedans. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Dites amen à ça. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Est-ce que vous croyez cela? Que quelque chose, que même si elle n'existe pas, vous ne la voyez pas, vous devez croire, Dieu est créateur. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ne regardez pas à ça. Regardez à la promesse. Si la promesse est pour vous, elle est pour vous. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. On reviendra sur ce verset. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ça règle tout. Ça règle tout. Une telle patience comme celle d'Abraham, comme celle de Job dans l'affliction, n'allons pas loin. C'est un don de Dieu. Et Dieu ne va pas vous faire le don en vous donnant un paquet. Dieu vous fera passer par des épreuves. Et ces épreuves produiront en vous la foi, la patience, pardon. Et la patience va accomplir parfaitement son œuvre. Comme on peut dire, c'est la patience du Seigneur, c'est la patience du Christ qui est l'homme parfait. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, de Thessaloniciens, chapitre 3. L'apôtre qui demande des prières. Verset 1er. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Vous y croyez ? Amen. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est la prière de l'apôtre. Que nous puissions avoir la patience de Jésus-Christ. L'épreuve de la foi. Notre foi est éprouvée. Elle est éprouvée. Dieu doit l'éprouver. Et je répète, c'est un test ADN. Pour voir si oui ou non, nous sommes fils ou fille d'Abraham. C'est écrit dans la carte d'identité. Actuellement, maintenant, les passeports, les cartes d'identité actuelles, hein, n'est-ce pas, on prend des captures de vos caractéristiques personnelles, n'est-ce pas, vos empreintes, ce qui sont produits de votre génétique. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il y a des milliards d'hommes et de femmes sur la terre, chacun ayant des empreintes, mais chaque empreinte est différente. C'est incroyable. Dieu est grand. Mon empreinte à moi, elle est à moi. Mon ADN à moi est à moi. Donc si je commets quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Lorsqu'on prendra l'ADN, j'ai beau nier, mais Une fois que l'ADN est là, ben, vous vous êtes fichu. Complètement fichu. J'ai un cousin qu'on a mis en prison comme ça, directement. Il a nié. Et après, lorsqu'on a fait des tests ADN, il n'y avait aucun doute possible. Vous savez, quand le juge l'a appelé, ayant les résultats du test ADN devant lui, il n'est pas rentré à la maison. Directement, case prison. Vous voyez ? Ça enlève tout doute. Et là où il doute, là où il, Il niait, le test ADN l'a confondu. Ouais. J'ai aussi un autre fiston, je ne dirais pas lequel, un jour, on m'avait contacté, voilà, il y a tel ou tel problème, le fiston, il niait. Ouais, ben, si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Alors, je dis, ben, écoute, la meilleure façon de prouver que ce n'est pas toi, c'est un test ADN. Il m'a dit, oh, mais ça coûte cher, papounet. Ouais, un test ADN, ouais, c'est pas grave. J'allais te téléphoner, frère Benoît. J'ai dit, je vais téléphoner au frère Benoît et on va passer le test ADN. Et quand il a entendu le test ADN, d'abord il a dit oui. Et puis, deux, trois jours après, il m'a appelé pour me dire, c'est moi. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est imparable. Hein, c'est pas un problème, je ne te demande pas de payer les tests ADN. On va le payer. Comme ça, on est sûr de tout. Gloire à Dieu. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, l'or est éprouvé par le feu, pour voir si c'est vraiment de l'or, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous savez, les métaux, lorsqu'ils sont dans leur état natif, dans la terre, lorsque vous le prenez, il y a plein d'impuretés, ils sont parfois mélangés à d'autres substances. Mais Dieu a aussi fait de sorte que les minéraux également, on peut les distinguer par certaines caractéristiques. Tout le monde sait que l'eau bout à 100 degrés dans les conditions atmosphériques normales. Alors, il y a d'autres liquides qui bout, qui ne sont pas l'eau, mais si vous les mélangez avec l'eau, vous ne savez peut-être pas les séparer. Mais ils ont des températures de fusion, de bouillir tout à fait différentes. Alors, s'il y a un liquide qui bout à 120 degrés, vous arrivez à 100 degrés, c'est l'eau qui s'en va d'abord, l'autre liquide reste. Ouais. Donc, il y a moyen de séparer. Et chaque minerai a sa température de fusion. Et ceux qui font la chimie analytique, ils exploitent ces propriétés-là pour séparer certaines substances. Il y a un moyen toujours de faire quelque chose. Non seulement la fusion, mais aussi, comment dirais-je, la température de congélation. L'eau congèle à 0 degré, il y a d'autres liquides qui congèlent avant 0 degré. D'autres après, vous allez congeler l'eau, vous avez l'eau. Ça va? On se tient toujours. Et c'est pareil avec l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, on sait voir qui est fils d'Abraham et qui ne l'est pas. S'il va bouillir à 100 degrés ou pas, dites amen à ça. D'ailleurs, dans la fournaise ardente, il y a eu trois fils d'Abraham qu'on a jetés dans la fournaise. Les bourreaux qui n'étaient pas des fils d'Abraham sont tombés aussi dans la fournaise, dans la même fournaise. Eux, ils ont bouilli avant même les fils d'Abraham. Amen. Et Isaac, Nebuchadnezzar, n'a pas réussi à atteindre la température de fusion d'un fils d'Abraham. Oh, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Jusqu'où faut-il aller avec un fils d'Abraham pour pouvoir le faire fléchir? Ce sont des gens bizarres, hein? Les fils d'Abraham. Amen. Hein? Et on dirait qu'ils se multiplient dans la fournaise ardente. L'autre, il regarde, il dit, mais on en a jeté trois. Oui, on en a jeté trois. Mais il dit, mais moi, j'en vois quatre. On n'est jamais seul. Et quatre, là, personne n'était brûlé. Ils étaient là, en train de causer ensemble. Ils ont passé une bonne réunion ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Bon, l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, elle est productive. Ça doit produire quelque chose. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le résultat de cette épreuve, c'est que vous louez Dieu. Et quand vous louez Dieu, vous montrez que, comme Abraham, vous êtes vivant. Vous êtes quelqu'un de vivant. Parce que Dieu est un Dieu de vivant, n'est-ce pas? Matthieu 22. Verset 31, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Et Ézéchias dit dans Ésaïe 38, celui qui te loue, c'est le vivant. Ésaïe 38, verset 19, n'est-ce pas? C'est celui qui loue Dieu. Et ça veut dire que lorsque Dieu a éprouvé votre foi, vous n'êtes pas un chrétien mort dans l'assemblée. Vous êtes bien vivant dans l'assemblée. Vous sortez d'une épreuve, mais vous louez Dieu de tout votre cœur. Vous sortez d'une épreuve telle que, oh, j'imagine, en tout cas, vous savez, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont chanté fort. Mais moi, je trouve qu'ils auraient pu chanter encore plus fort en entrant dans Canaan. Et ils l'ont certainement fait. Parce que rien que avec les trompettes et les chants, n'est-ce pas, les murs de Jéricho ont été ébranlés. Dans Ésaïe 38, quand Dieu vous a ainsi permis de passer par une épreuve de manière victorieuse, tout ce que vous allez faire, c'est le louer. C'est le résultat de l'épreuve. Vous allez le louer. Il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui... Verset 18, 38-18, Ésaïe 38-18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te loue, qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant. C'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Ben, Dieu vient, il le loue pourquoi? Comme lui, aujourd'hui, il le loue pourquoi? Parce que Dieu vient de le sauver de la mort, d'une mort anticipée. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Vous voyez? Donc, ça est pour résultat, la gloire. Eh oui, Abraham n'a pas regardé à ce que son corps était complètement usé, n'est-ce pas? On l'a lu tout à l'heure. Hein? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est le résultat de l'épreuve. C'est le résultat de l'épreuve. L'honneur. Vous lui donnez l'honneur à Dieu. Honneur à l'agneau. Amen. Pourquoi loue-t-il Dieu? Pourquoi rend-il gloire à Dieu? Parce qu'il a obtenu la promesse. La promesse que Dieu lui a faite. Dieu vous a fait la promesse du Saint-Esprit. Que Dieu vous donne seulement le Saint-Esprit là tout de suite. Vous allez voir. Comme au temps des apôtres, quand Dieu a répandu le Saint-Esprit sur eux, et ils ne s'occupaient plus des voitures ou des véhicules qui venaient dans la rue, ça se promenait comme des hommes et des femmes ivres, disant, ils sont pleins de vin doux. Vous êtes différents. C'est le résultat d'un chrétien. Dans un chrétien, lorsqu'il a reçu la promesse que Dieu lui a faite. Et il y a donc cette foi, une foi éprouvée, c'est la foi qui obtient les promesses. Parce qu'il y a une foi qui n'obtient pas de promesses. Mais il y en a une qui obtient les promesses. Vous savez, dans... Je crois que c'est acte 14, mais ça, je ne suis pas sûr. Mais je vais regarder. Acte 14. Je n'ai pas noté. On va terminer. Oui, c'est bien ça. Acte 14, verset 6. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, on cherchait à les lapider, hein, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il devait en avoir beaucoup. Je crois qu'il n'était peut-être pas le seul à Lystre, mais celui-là était là. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant, moi ça m'a toujours frappé, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il faut avoir cette foi-là. Si on ne l'a pas, ce n'est pas une honte. La foi reste un don de Dieu. Alors prions Dieu pour qu'il nous la donne. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas cette foi-là. Pour moi-même ou pour, je ne sais pas, pour mon fils ou pour mon frère ou pour ma soeur, pour mon père, pour ma mère, pour je n'en sais rien. Pour qui vous voulez, pour le frère en Christ, je n'en sais rien. Je n'ai pas encore la foi pour qu'il... Mais donne-moi cette foi-là. Comment cet homme, lui, il avait la foi pour être guéri? Pourquoi est-ce que moi, je ne l'aurais pas? Pourquoi le centenier avait la foi pour que son serviteur soit guéri? Pourquoi moi, je ne l'ai pas? Il est bon de l'avoir, cette foi. Et c'est Dieu qui donne. Cela ne venait pas du centenier lui-même, c'est Dieu qui lui a donné cela. Dans Hébreux 11, verset 32, « Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vaincre des royaumes par la foi. Or, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ça va? Exercèrent la justice, obtinrent des promesses par la foi. Cette foi qui obtient les promesses, y fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. C'est un don merveilleux, dit le cantique, que Dieu donne. C'est plus précieux que l'or, cette foi-là. Parce que la foi-là, elle fait plus que ce que l'or peut faire. Vous voyez? Et non seulement cela, notre foi, c'est notre victoire sur le monde. Les choses du monde sont passées, sont vaincues. 1 Jean chapitre 5, et nous allons prier. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous avez entendu ça? Ses commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible pour celui qui a la foi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si votre foi est éprouvée, rendez gloire à Dieu. Dieu est en train de faire de sorte que vous-même vous voyez si effectivement vous pouvez vous présenter à la banque, à sa banque, à lui, à la banque spirituelle, n'est-ce pas, en disant « je suis fils d'Abraham ». Parce qu'à la banque, du ciel, c'est ce qu'on vous demandera. Si vous avez cette foi-là pour recevoir la promesse que vous cherchez. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Demandons cela au Seigneur. C'est ma requête, frère Benoît. Pas seulement pour moi-même, mais pour toute l'Assemblée. Que Dieu nous augmente la foi. Cette foi d'Abraham. Que cette Assemblée soit remplie de fils et de filles d'Abraham. Prions le Seigneur. Père Céleste, c'est un don venant de ta part. De foi de croire que Christ est venu. Il est mort pour moi. Qu'il a versé son sang pour mes péchés. Et qu'aujourd'hui, il baptise du Saint-Esprit. La promesse est pour nous. La promesse est pour nos enfants. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre. Le Seigneur Dieu appellera. Puissions-nous être entre frères et sœurs, étant tous unis par cette même foi, du même prix que celle de Pierre, cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Puissions-nous tous être Puissions-nous tous avoir cette même foi qui vient de toi pour obtenir la promesse du Père. Cette puissance qui doit nous venir d'en haut. Nous en avons besoin. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les personnes que nous aimons. Ils sont alités, ils sont dans la douleur, ils sont dans la souffrance. Donne-nous ces jours heureux qu'ils avaient autrefois dans l'Église primitive. Parce qu'ils pouvaient prier les uns pour les autres. Les murs tremblaient. Les lieux dans lesquels où ils étaient pouvaient trembler. Et les malades étaient guéris. Et tu opérais de nombreux miracles au milieu d'eux. L'honneur, la gloire, la louange ne reviendront qu'à toi seul, Père. Nous te remercions pour ces épreuves, lorsque notre foi est éprouvée. Paul dit que sa foi a été fortement éprouvée, mais qu'il avait combattu le bon combat. Il ne s'était pas trompé de combat. Et lorsque sa course s'est achevée, il a gardé la foi. Il n'avait point fait naufrage par rapport à la foi. Sois béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, exalté. Ton nom soit vénéré, respecté. Ce nom merveilleux que tu nous as donné. Comme nous venons de le dire, que cette assemblée soit remplie de véritables fils et filles d'Abraham, ceux qui font les œuvres d'Abraham, ceux qui ne regardent pas aux symptômes, mais qui fixent fermement la promesse telle que tu l'as prononcée. Pour nous voir cela s'accomplir au-dedans de nous. Merci pour la réunion de ce soir. Merci de nous avoir réunis. Merci de nous reconnaître. Et pour tout ce qui va se passer dans les jours à venir, nous te remettons cela. Nous te remettons aussi la pose de la pierre tombale à laquelle nous sommes appelés demain. Nous souvenons encore de notre bien-aimé parmi nous. Et en ce souvenir au milieu de nous, que lorsque nous nous rencontrerons, nous puissions encore avoir en nous ces moments merveilleux que nous avons passés ensemble, croyant qu'il y a encore des meilleurs moments qui nous attendent un jour, que nous pourrons passer tous ensemble. Bénis tes enfants, raccompagne-les chacun dans sa demeure. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.